תודה רבה.
On est prêt.
On est
Bonsoir,
prêt.
Rav.
Shalom, Vracha.
Un plaisir de vous retrouver dans
Le
ces
plaisir
circonstances.
Vous
dans ces circonstances. Alors, on va aller droit au but. Bon, la Torah, le Rav, plutôt, va nous faire déjà une introduction que la Torah, c'est pas que pour les Juifs. C'est bien de le répéter, voilà, et de nous expliquer rapidement, brièvement, le message de la Torah pour les non-juifs et le rôle d'Israël vis-à-vis des non-juifs. Voilà.
D'abord et avant tout, il faut retenir que la Torah a été donnée dans le désert pour bien faire comprendre que celui qui voudrait y accéder n'a pas besoin de passer des frontières, comme c'est le cas de tous les pays qui sont ornés de frontières. La Torah a été donnée dans un endroit neutre, le désert du Sinaï. Et donc, tout celui qui voudra venir entendre la parole de Dieu, si je peux me permettre l'expression, et la mettre en application, était libre de venir. Et ce n'est pas pour rien que, justement, la section hebdomadaire dans laquelle les tables de la Torah ont été données à Moïse et au peuple d'Israël, et à tous ceux qui voulaient se joindre à eux, eh bien, est mise sur le nom d'un converti, du nom de Jéthro en français, Jéthro en hébreu, pour bien faire comprendre que la Torah, absolument, ne s'adresse pas qu'aux Juifs, à un tel point que le Talmud dans Masechet Avodah Zara, Bedav Gimel Amudalef, dit au nom de Rabbi Meir Baal Hanes, un des plus grands maîtres du judaïsme, qu'un non-juif qui étudierait la Torah écrite est aussi grand à ses yeux qu'un Kohen Gadol, qu'un grand prêtre dans son travail. C'est vrai que les Juifs ont un rôle très important et principal à jouer à travers les 613 commandements de la Torah, mais que les nations du monde ne sont pas moins importantes à travers l'accomplissement de sept mitzvot noachid qui les concernent, car c'est ensemble que nous reformons les familles des nations du monde, même si chacun reste à sa place et qu'on n'a pas le droit de s'assimiler, il n'empêche que la variété de la pensée humaine se remplit, Baruch HaShem, d'une très belle harmonie quand chacun occupe le rôle qu'il se doit d'assumer.
D'accord, très bien. Alors, c'est très important pour préciser aux gens que c'est pas, ça n'a pas été transmis dans une grotte, une seule personne qui a dit « Dieu m'a parlé ». Ça a été transmis, c'est Dieu lui-même qui est venu transmettre la loi de devant combien de personnes. Voilà, pour bien situer le contexte, que c'est pas les rabbins qui ont écrit, c'est Dieu qui a transmis.
Absolument. La Torah, on parle, quand on dit le mot Torah, on parle des cinq livres connus en français sous le nom du Pentateuque. Quand on observera la section hebdomadaire justement de Jéthro, du don de la Torah, ainsi que beaucoup d'autres endroits, mais ce n'est pas le but de ce soir, très brièvement, c'est marqué aux yeux de tous les enfants d'Israël. C'est-à-dire que la Torah a été donnée sous le mandat de témoins oculaires de 3 millions de Juifs dans le désert, et de plusieurs centaines de millions de Erev Rav, c'est-à-dire de non-juifs qui sortirent avec les enfants d'Israël pour les accompagner dans toute leur péripétie jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, guidée par le maître spirituel de cette époque, Moshe Rabbeinu. Donc,
Moïse.
Il est évident que la Torah a été donnée sous témoignage oculaire de millions d'individus qui témoigneront chez Nehemar, Vaïr, ou et Akolot. Non seulement ils ont vu que Dieu a donné la Torah, mais ils ont constaté que Moshe Rabbeinu sera le prophète de la transmission de la Torah et personne d'autre.
D'accord. Donc, la Torah a été donnée avec les 10 commandements en langue hébraïque. Voilà, pour finir sur ce chapitre-là. Donc,
la Torah a été donnée en langue hébraïque. Elle sera traduite plus tard par Talmaï, roi de Grèce, il y en a qui disent d'Égypte, peu importe, en 70 langues et 70, ce qu'on appelle cette fameuse traduction qui sera faite dans toutes les langues, afin justement, même si ça a été un jour noir pour le peuple d'Israël, car la falsification de la traduction retire toute l'âme de la Torah, donc la Torah devait être en réalité étudiée qu'en hébreu, mais on peut aussi l'étudier dans toutes les langues, puisque de toute façon, les nations du monde n'ont pas spécialement à approfondir l'étude de la Torah, mais de comprendre ce que Dieu attend d'eux, ainsi que le peuple d'Israël, qui, nous, dans notre travail à nous, auront affaire à plusieurs degrés d'explication, comme le pshat, le redrash, le remez, le drash et le sod. C'est-à-dire, on a plusieurs degrés d'explication, et les nations du monde devront au moins connaître l'histoire, les péripéties, les légendes, si je peux appeler cela comme ça, du peuple d'Israël, Pour mieux comprendre où nous allons, il faut aussi comprendre d'où nous venons. Et justement, la paracha de cette semaine, la section que nous allons lire pendant ce Shabbat qui arrive, Letova Benibracha, parle justement de ce sujet-là, puisque nous repartons à travers les trois pères de l'humanité, Shem, Ham et Yafet. Ham, c'est marqué ça en français, et Yefet en français, qui sont les pères de l'Occident, de l'Orient et de l'Afrique.
L'Afrique, d'accord. Maintenant, Rav, on va aller sur la première partie du sujet, donc l'actualité, voilà, le coronavirus, krach boursier, voilà, crise économique, voilà. Est-ce que la Torah avait prédit cela, et la Torah et les commentateurs, bien sûr, bon, voilà, et les références, Rav, important
d'abord,
pour les non-juifs.
J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Le judaïsme n'est pas une religion. Elle peut être traduite comme étant une religion par rapport à certains accomplissements, comme mettre les téphilines, aller à la synagogue et autre chose. Ech dat lamo, que dat Moshe Israël, c'est ce qu'on dit en hébreu, selon la date, la religion de Moshe et du peuple d'Israël. Mais il faut comprendre que la Torah n'est autre que les modes d'emploi que Dieu, en tant que créateur du monde, en tant qu'architecte du monde, a suivi les plans. Et donc, s'il a créé le monde avec tout ce qu'il contient pour le meilleur comme pour le pire, c'est que les plans du monde, donc la Torah elle-même, la Torah écrite et la Torah orale, connue sous le nom de Mishnah, de Talmud, de Halakha, des lois juives, parle absolument de tous les sujets. Et c'est très important de comprendre que par rapport à ceux qui veulent constamment séparer la religion de la politique, ce qui est une très grave erreur, ce qui est presque du christianisme à la limite, de séparer la Torah de la vie sociale, du travail professionnel, de séparer la Torah de la science. Il y a une personne qui est intervenue il y a quelques jours en me disant, un homme de science d'ailleurs, j'ai eu un petit problème, donc quelqu'un, un scientifique me dit, Rav Twitou, nous sommes en 5781 vis-à-vis de la Torah, mais pour les scientifiques, il y a 4 milliards et demi d'années. Ne mélangeons pas la Torah et les scientifiques. Il faut même être quelqu'un de profondément ignorant en Torah pour dire de telles âneries. La Torah parle absolument de tous les sujets, y compris et particulièrement de ce qui se passera à la fin des temps. Le Talmud en parle dans Maseret Sanhedrin à la page 97, 98, et dans Maseret Sota à la page 49, Amud Bet, Be'ikva de Meshicha, de ce qui se passera à la fin des temps. Le prophète Isaïe, le prophète Amos, le prophète Sefania, la Torah elle-même, Bedarach Kochav Be'yakov, dans la paracha de Balak, en d'autres
Daniel.
Termes, dans Daniel, mais la liste serait beaucoup trop longue, les références sont très très nombreuses dans la Torah qui nous parle justement d'un des sujets des plus importants, puisque de toutes les choses de la création du monde, s'il y a un domaine dans lequel Dieu s'est vanté, c'est trois choses. Dieu s'est vanté en disant « Le peuple d'Israël m'appartient, celui qui le maudit sera maudit, celui qui le bénira sera béni. » La deuxième chose dont Dieu s'est vanté, c'est le pays d'Eretz Israël, la terre d'Israël, sur laquelle il dit ouvertement que ses yeux gèrent ce pays et exigent ce pays du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tout ce que vous dites marqué dans la Bible, okay, dans la Torah. Ce n'est pas des choses qui viennent référencer de droite et de gauche, c'est carrément dans la Torah. Qui a Hashem Rishit Hashem du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et par contre, très intéressant, c'est que dans le prophète Haggai, chapitre 3, là-bas, Dieu se vante encore d'une chose et il dit « L'or et l'argent m'appartiennent. Je ne l'ai pas donné à l'homme. Nous ne sommes que des dépositaires, c'est-à-dire des gens qui venons récupérer quelque chose sur lequel le Créateur du monde nous dit « Faites attention, l'or et l'argent est à moi, je le donne à qui je veux. » Comme l'explique Rashi dans son premier commentaire vis-à-vis de la terre d'Israël, « Si un jour les nations du monde viennent vous accuser, vous les Juifs, d'être des voleurs, d'avoir volé la terre des sept peuplades, vous leur répondrez la chose suivante. La terre appartient à Dieu, ainsi il a montré sa puissance dans la création du monde et il la donne à qui il le désirera. Et il nous a donné cette terre, comme c'est marqué depuis le début du livre de l'Exode jusqu'à la fin du livre de la Torah, Parasha Bezot Aberacha. Donc la Torah, ce que je veux faire comprendre à tout le monde, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se vit dans un monastère ou dans un temple uniquement, c'est quelque chose qui se vit surtout à l'extérieur, dans la vie active, c'est-à-dire que les quatre traités du Shulchan Aruch, des lois juives que nous, les juifs, nous avons, traitent de relations amoureuses, donc conjugales, des relations de meurtre, des relations de problèmes d'argent, de conflits. La Torah nous parle absolument de tout ce qui est moral comme immoral, et ce, dans tous les détails, et y compris dans le domaine international. Et c'est pour cela que je suis toujours assez choqué de voir des gens qui après 2000 ans d'assimilation, sont devenus religieux dans le cadre de « ne faut pas mélanger la religion avec le fait de s'assimiler », par exemple. Ce qui est une très grave erreur, puisque dans le monde d'en haut, quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde dans lequel il a mis la Torah, parce que le monde vient de cette Torah. Le monde a été créé pour la Torah, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on parle
avec des lettres hébraïques.
Donc, la Torah peut parler de tous les sujets, même les plus tabous, même les plus difficiles, car elle renferme en elle toutes les réponses, même si des fois elles sont souvent écoutées.
On en a un après, là.
Mais certainement référencées.
On en a un après pour finir le live. Un gros sujet tabou, vous allez voir. Donc, merci maintenant de bien nous expliquer. Alors, que dit la Torah? Est-ce que la Torah, par rapport à cette maladie qui est le coronavirus, qui a tout dévasté, l'économie, crise économique, krach boursier, on voit aujourd'hui que les banques centrales impriment de l'argent à partir de rien, or que l'argent était indexé au début sur l'or, sur des richesses, sur des valeurs. L'argent n'a plus de valeur, donc on est vraiment dans un krach boursier, dans une crise économique, dans une crise même, on va dire aussi humaine. Est-ce que la Torah avait prédit ça? Est-ce que la Torah avait prédit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, le coronavirus, tout ça, voilà.
Alors d'abord et avant tout, j'aimerais d'ailleurs faire un rebond, un rebondi sur, vous savez, il y a en ce moment une petite image qui passe de moi comme quoi que j'aurais dit l'Europe va le payer très cher parce que, patati patata, un cours que j'avais fait il y a à peu près 6-7 ans, ouais. Après des attaques très très violentes en France,
dans du Bataclan,
responsabilité de l'ordre et du gouvernement de cette époque qui était au courant en France et qui n'a absolument rien fait pour empêcher les choses, comme l'ont montré les journalistes par la suite. Mais ce que n'ont pas compris les gens, c'est que d'abord ce message a été complètement faussé parce que je mettais en garde, tout comme la Torah nous met en garde contre la guerre de Gog ou Magog ou le christianisme avec la guerre de Armageddon ou l'islam. Mais en garde contre la fin des temps, du dévoilement de Dieu, du jour de la justice, ou même les bouddhistes même, et même les sectes même, les Lef Alpha Abdalim, sans faire de comparaison avec Israël, mais de prévenir de ce qui peut arriver, comme je l'ai fait en disant « faites attention de ce qui se passe en Europe, parce qu'effectivement, là, ce ne sera pas ceci et cela, comme disent les prophètes. À la fin des temps, Dieu viendra régler les comptes. » Ce n'est pas moi qui le dis. Je citais un livre que n'importe quel abruti aurait pu acheter dans une boutique, à savoir maintenant s'il y adhère ou pas. Moi, je suis rabbin. Donc, j'explique ce que la Torah explique à mes élèves. Comme c'est sur Facebook, bien entendu, ou sur les réseaux sociaux, ça peut venir dans les oreilles de qui voudra l'entendre. Maintenant, moi, je crois en ce qui a marqué. Et j'explique qu'à la fin des temps, il y a une guerre de Gog ou Magog, connue sous le nom d'Armageddon en français pour les chrétiens, entre autres, et qui explique qu'il y aura une guerre entre l'Orient et l'Occident. C'est une guerre qui est prévue depuis des décennies par nos sages, et non pas moi personnellement. Et dans le message, j'explique qu'effectivement, avec ce qu'est en train de faire l'Europe pour des raisons certainement démographiques, parce qu'il faut beaucoup plus de matrices pour remplir les pays, pour relever justement une économie, une erreur très importante s'est commise en Europe, c'est qu'avec les Portugais, ça l'avait fait en France, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est une islamisation sur le domaine de l'Europe. Et hier ou avant-hier, pas plus que cela, un homme s'est fait décapiter. J'ai expliqué dans un cours ce qu'attendait l'Europe, non pas ce que je souhaitais à l'Europe, mais ce qui arrivera de l'Europe si les choses ne changent pas, et on peut changer les choses. Voilà quel était mon message. Mais bon, il y a toujours des individus qui adorent casser du sucre sur les Juifs et qui adorent particulièrement casser sur les rabbinim. On est dans la période de cassons du Juif ou cassons du rabbin. Donc, je ne veux pas m'attarder sur ce sujet-là, mais ça me fait plaisir de dire quand même et d'expliquer un peu en public ce qui se passe. Ce qui est certain, c'est que de toute époque, les sectes, comme par exemple le nouvel ordre dit mondial, que tout le monde accuse à tort et à travers, ou peut-être à raison, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas, les Illuminati, et il est sûr et certain que dans toutes les époques, il y a eu des gens qui ont voulu diriger le monde, comme Nimrod, Nabucodonosor, Titus, Alexandre le Grand lui-même et bien d'autres conquérants, il a toujours eu, comme à Achashverosh, des gens qui ont voulu diriger les finances, diriger le monde, diriger la vie des autres. Aujourd'hui, Facebook et les réseaux sociaux sont les numéro un mondiaux pour diriger et surveiller nos vies privées à un tel degré que on peut savoir ce que tu as mangé, où tu étais, ce que tu as fait, combien tu as dépensé, de quelle façon tu l'as dépensé, par rapport à une, je dirais, une violation dans la vie privée de chacun de nous. Il y a toujours eu ce pouvoir de vouloir diriger la vie des autres. Et il est évident que le Créateur du monde, comme je vous l'ai dit, il y a trois choses sur lesquelles il met vraiment les points sur les i. C'est la terre d'Eretz Israël qui est toujours au centre de tous les débats de façon générale, que ce soit pour la guerre ou pour la paix. Il y a cette dimension d'être juif. On est constamment critiqué quand on est religieux. C'est carrément nous qui avons amené le coronavirus, alors que 33% de la situation, par exemple en Israël, est orthodoxe. 33, donc ça laisse combien? 67 encore pour cent de gens qui ne sont pas orthodoxes et qui sont porteurs du coronavirus. Donc on a toujours cette sacralisation du juif ou du religieux et Dieu nous dit, touchez pas à mes enfants, ça suffit avec cela. Et la troisième chose, c'est l'argent. Et l'argent est dénominateur de toutes les problématiques qu'on appelle l'effet domino. Quand il n'y a plus d'argent, cela provoque la jalousie, comme les émissions que c'est en train de se faire aujourd'hui, où beaucoup de gens disent, vous trouvez ça normal qu'il y a 2000 milliardaires sur toute l'humanité qui ont autant d'argent. C'est moi ce que j'appelle de la pure jalousie. Pour moi, le parti le plus immoral, même pas pour moi, selon la Torah, c'est le communisme. Parce que dans le judaïsme, il y a la tzedaka. La tzedaka, c'est celui qui a les moyens, qui a eu de la chance, qui a été choisi par Dieu d'avoir cette chance d'être riche et de pouvoir, selon sa volonté, de donner à l'autre. Et dans le judaïsme, on nous apprend qu'il n'y a pas de richesse si ce n'est que de savoir donner, relever. Mais de là à prendre par la force ce qui m'appartient pour le donner à l'autre, sous prétexte qu'on s'appellerait camarade ou toute autre dénomination, c'est ce qu'on appelle de la pure jalousie et du vol. Mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est important quand même de le stipuler dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la jalousie qu'on entend dans les réseaux sociaux à propos de ceux qui ont fait leur fortune, qui n'ont pas volé, qui ont su travailler, qui ont de la chance, qui ont été bénis sur leur travail, et ceux qui se retrouvent dans la difficulté ou sous prétexte, ouais, moi, je comprends pas, toi, tu es riche, moi, je suis pauvre, c'est pas juste. Eh bien, mon pote, quand tu regardes ta main, tu vois, il n'y a pas un doigt qui a la même hauteur que l'autre. Et pourtant, c'est ensemble qu'on arrive, avec l'aide d'Hachem, de pouvoir créer le monde. C'est-à-dire, si tu acceptes, toi, de m'aider, de ta volonté, alors tu feras une mitzvah, une bonne action. Mais de là à venir dire, t'as de l'argent, tu me le dois, c'est anti-Torah et anti-moral. Et c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que la paracha de la semaine de Noir, justement, nous parle des premiers communistes de l'époque qui estimaient que ce qui t'appartient m'appartient, et ce qui m'appartient, je vais voir si je peux te le donner à l'occasion. Donc ça, c'est quelque chose qui pour remettre un petit peu dans l'ordre, on va dire, dans cette immoralité que nous vivons aujourd'hui. Mais pour répondre à la question, oui, la Torah nous parle absolument des crises économiques et je tiens à rappeler très très brièvement, sans rentrer dans tous les détails, qu'on n'est pas aujourd'hui au premier crash boursier, à la première panne économique, puisque le jeudi noir, jour fameux connu, d'ailleurs très très connu, pardon, le crash boursier du 24 octobre 1929, on a eu le
29.
crash boursier. Le 19, pardon, le 24 octobre 1929, le crash boursier de lundi 19 octobre, si je peux me permettre, 1987, le crash boursier en 90, le crash immobilier qui a fait des dégâts incommensurables en 91, 2007, 2008, le crash boursier en juillet-août 2011, sans oublier le crash boursier en décembre 2013 et de janvier 2014, la Chine qui fait trembler toutes les bourses en 2015, le crash boursier du coronavirus qui, lui, par contre, provoquera en d'autres termes aussi la chute du pétrole en 2020, mais qui est effectivement différente des autres. Et pourquoi est-ce que la Torah nous parle de cela? Parce que quand nous avons des crashs boursiers qui interviennent, hormis le fait qu'il y ait des gangs organisés pour justement essayer de contrôler le monde, chose qui a toujours existé depuis la création du monde, quand Caïn, le premier assassin de l'histoire, a voulu avoir un total contrôle sur ce qui se passera. Ce sont des choses qui se répètent de génération en génération. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est où est Dieu dans l'histoire. Et la Torah nous dit, la Torah orale, dans Maseret Sota, Be'ikva de Mishicha, que dans Sanhédrin, surtout dans Sanhédrin, la Maseret, donc dans le Talmud, il y a juste, pour ceux qui ne savent pas quand est-ce qu'a été écrit le Talmud, il y a 1800 ans. OK? En ben David ba ad sheikale pruta minakis. Velo imtzu dag ladug. Je m'explique. Le Talmud, il y a 1800 ans en arrière, prévient l'humanité que dans la génération de la fin des temps, c'est-à-dire avant le renouvellement du monde meilleur, celui qui se définira par étant le Messie. Donc l'islam va dire qu'il vient de chez eux, les chrétiens vont dire que c'est Jésus, nous les juifs on appelle le descendant du roi David, les bouddhistes vont dire que c'est Bruce Lee, les sectes vont l'appeler comme ils voudront, on s'en fiche. Il y a une chose qui nous réunit au niveau de l'idéologie, c'est l'avenir d'un monde meilleur, de passer d'un jour qui s'éteint pour un nouvel espoir qui réavive l'humanité. Le Talmud nous dit explicitement qu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'argent dans les poches. Et je me suis pendant des années posé la question, déjà même en yeshiva quand j'étais jeune, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'argent? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout d'argent sur Terre? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore de l'argent, mais il ne sera plus symbolisé par de la monnaie ou des billets, comme on le connaît jusqu'à aujourd'hui? Et quand on voit ce qui se passe, où on a de la crypto-monnaie, on a le Bitcoin, on a aujourd'hui, on peut payer avec son propre portable, c'est-à-dire qu'il y a une élimination totale de l'argent à proprement dit. Déjà depuis très longtemps, on payait avec des chèques, ensuite on payait avec des cartes Visa. Mais aujourd'hui, on arrive à une espèce de faiblesse vis-à-vis de l'argent liquide, ce qui permet un meilleur contrôle, et c'est là où tu voulais certainement venir après, sur les activités de chacun de nous, que ce soit en France comme en Israël, ou comme aux États-Unis et partout ailleurs, et puis là, même au Maroc, les gens propriétaires de leur argent ne seront plus propriétaires de leur argent. C'est-à-dire que quand ils voudront retirer des sommes déclarées, ils devront expliquer pourquoi ils la retirent, sous quelles conditions ils la retirent, et on leur dira, monsieur, la somme que vous demandez, alors que c'est son propre argent gagné à la sueur de son front, lui sera donné selon la volonté de la personne qui sera en face de lui. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment à des moutons de Panurge à demander faire l'aumône de notre propre argent. Il y a quelque chose de très grave sur le domaine économique qui se passe derrière tout ça, un contrôle total de l'argent privé, à un tel point qu'on ne sait plus si les banques sont réellement des amis ou des ennemis du privé, jusque-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, la Torah nous dit, donc je reprends les rênes de la Torah, c'est qu'à la fin des temps, Dieu fermera les robinets économiques. Il y a 1800 ans en arrière dans le Talmud. Pourquoi? Parce que les générations seront descendues à un tel niveau de débauche, de mensonge, Atkedekar veut dire en hébreu jusqu'à, ce que le Talmud nous dit, que la vérité sera appelée mensonge et que le mensonge sera appelé vérité. Comment Dieu va-t-il régler cela? Eh bien, il mènera les nations à déposer les armes ou alors à les reprendre. Ça dépendra de ce qu'ils voudront faire. Si les nations du monde reconnaissent leurs erreurs et se plient à la moralité de la Torah, tout peut très bien se passer. Mais les prophètes nous mettent en garde. Si ce n'est pas le cas, et y compris pour le peuple d'Israël, comme on l'a vécu au premier exode de l'histoire, où 80% des enfants d'Israël sont morts en Égypte et 20 seulement pour cent sont sortis d'Égypte. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de la fin des temps. Si le peuple d'Israël ne fait pas teshuva, retour aux valeurs morales et à la volonté de Dieu d'accomplir sa Torah et ses mitzvot, et que les nations du monde ne respectent pas les 7 lois qui les concernent, alors on va replonger dans une obscurité qui s'appelle l'obscurité de la fin des temps. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que même si on a cité quelques années, quelques crashs boursiers internationaux, bien entendu, qui ont fait trembler l'économie mondiale, on n'a jamais connu une situation comme on connaît aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu la grippe espagnole qui a fait des millions de morts, beaucoup plus important que ce que l'on connaît avec le Covid-19, quoique, à mon avis, les médias ne disent pas la vérité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'économie, combien même le Covid disparaîtrait avant janvier 2021, les conséquences économiques seraient si importantes pour n'importe quel économiste, ce que je vous dis, qu'elle comprendrait plusieurs années de réparation, donc des dégâts irréversibles au sein des populations et des pays. Donc on est face à une obscurité qui fait plus ou moins, je dirais, peur, Parce que Dieu a un plan, et ce plan, c'est de réveiller les gens en leur disant, vous avez trop compté sur l'économie, sur l'argent, sur la puissance, sur vous-même, en m'ayant mis de côté, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, comme le président Trump a dit la semaine dernière, je demande qu'on réouvre tous les temples de prière, car seul Dieu pourrait nous sortir de ce virus et de cette situation internationale économique. Et c'est exactement ce que dit le Talmud. Je vous retirerai tous vos moyens jusqu'à ce que tout le monde lève les yeux vers le ciel et dise, nous ne pouvons compter que sur toi. Il serait temps de réinvestir les valeurs spirituelles et les valeurs humaines au sein, pas simplement du peuple d'Israël, qui est d'ailleurs toujours resté fidèle en grande majorité, mais au sein des nations du monde. Et les nations du monde, je le dis une fois de plus, mais avec le langage que moi j'ai expliqué, non pas une malédiction ou un souhait exprimé, mais si les nations du monde, effectivement, ne se reprennent pas sur les minimums règles de moralité, il est certain qu'on va vers une obscurité extrêmement profonde, dramatique, et qui risquerait, comme le dit le terme en hébreu, le mot guerre en hébreu se dit milchama, qui vient du mot lechem. Quand il n'y a plus de pain à manger, alors on rentre en guerre. Le seul problème aujourd'hui, en 2020, au 21e siècle, c'est qu'on n'est plus à l'époque des arches, des épées, des javelots. On est dans une époque où on n'a même plus besoin réellement de soldats. On appuie sur un bouton et ça fait disparaître toute une humanité, ce qui est dramatique. C'est pour cela que j'invite grandement les gens de n'importe quelle religion, de n'importe quel pays, de se remettre en question aujourd'hui sur les valeurs morales, sur le fait d'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en France, à 3 h du matin, ils ont voté une loi, ils ont que ça à faire, de faire des avortements, même si la femme est enceinte au 9e mois, ce qui est un pur meurtre, est totalement concrétisé. Je veux dire, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On appelle papa et papa, maman et maman, mais où est-ce qu'on va? Alors que les gens l'acceptent parce qu'au 21e siècle, on n'a pas besoin de Dieu et qu'on fait ce qu'on veut et on n'a pas à nous dire ce qu'on a à nous dire. Le droit de l'expression, on peut tuer qui on veut, on peut faire ce que l'on veut. Et attention, il faut toujours rester politiquement correct parce qu'il faut appartenir à un système dans lequel, en fin de compte, tout est dictatural au nom de la démocratie. Donc on rentre dans une espèce d'hypocrisie qui aujourd'hui fait extrêmement peur et ne plaît pas à Dieu. Et c'est pour cela que quand il n'y a pas d'économie, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, il y a l'effet domino, car malheureusement, l'un fait tomber l'autre, qui fait tomber l'autre, qui fait tomber l'autre, on va dire, des règles sociales les plus élevées, des rangs sociaux les plus élevés, jusqu'aux personnes les plus démunies. Dans un monde, pour certains pays qui sont très capitalistes, des gens qui nous dirigent avec une maladresse hors du commun, mais vraiment hors du commun, et ce, dans beaucoup de pays, avec une situation où les pauvres souffrent énormément, et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas avec qui parler. Moi, j'estime que quand on est à la tête d'un pays, la première règle pour un homme qui se dit être un homme à la tête d'un pays, c'est de descendre vers son peuple, de comprendre son peuple, de relancer une économie avec le fait de mêler les gens aux problèmes des autres dans le libre arbitre de chacun de nous. Et malheureusement, on vit dans une immoralité aujourd'hui où la Torah nous a mis en garde, et si on n'y arrive pas, eh bien, on aura apparemment peut-être un héros qui apparaîtra dans l'histoire pour remettre les pendules à l'heure. Sur le domaine
Mais,
économique.
Rav, juste une petite parenthèse. Il y a aussi un problème qui se fait, c'est que quand on tape, par exemple, sur l'immoralité, on ne dit jamais que tromper aussi sa femme ou son mari, c'est un acte qui est aussi immoral pour Dieu. Et c'est pour ça aussi, c'est important de le dire qu'on doit, se doit d'être fidèle. C'est pas que l'homosexualité qui est une abomination pour Dieu aussi,
Ça aurait
c'est
été
très
valable.
important.
Je vais te répondre quelque chose, Claude, de très important pour moi. Quand j'étais enfant, c'était des règles d'immoralité qui étaient convenables par rapport à la génération. Aujourd'hui, on est dans les clubs d'échangisme. De façon assez, dans les journaux que les enfants peuvent acheter, il y a marqué club d'échangistes de telle heure à telle heure, inscrivez-vous, venez. On est avec des médecins qui conseillent vivement à l'adolescence de pratiquer la masturbation, que ça fait absolument du bien dans tous les
Voilà.
réseaux sociaux.
À la télé.
On est aujourd'hui, quand on veut faire un cadeau à son petit frère, on lui amène une prostituée pour qu'il puisse s'amuser avec. On est loin de l'immoralité des films à caractère pornographique d'il y a 50 ans en arrière, 30 ans en arrière, et ce que l'on vit aujourd'hui, où n'importe quel gamin sur son portable peut mettre le film qu'il veut, même le voir avec son grand frère, qui ne sera non seulement pas là pour le moraliser, mais qui le regardera avec lui en disant quand tu seras grand, t'en profiteras toi aussi. Donc je pense que de parler aujourd'hui de la femme qui trompe son mari, qui est considérée comme un des plus graves péchés dans le judaïsme, et aussi dans les lois d'ailleurs des non-juifs,
Non-juifs.
l'inceste, où toutes ces choses-là ont lieu aujourd'hui. Faut rappeler que dans pas mal de pays, il y a beaucoup de gens qui couchent avec leurs propres sœurs. Bon, on ne peut pas rentrer dans tout ça, mais c'est presque une culture de vivre ce genre de choses. Comme aux États-Unis, si tu n'as pas un amant ou une amante, ou une maîtresse, c'est le cas de dire évidemment, tu n'es pas culturel, tu n'es pas dans le bitcoin, tu n'es pas dans l'arnaque, on appelle ça là, le forex, t'es pas à la mode, t'es pas voleur, t'es pas mec bien. On en est là aujourd'hui. Faut comprendre les choses. Aujourd'hui, on est dans une génération où quand un enfant adopté se lève le matin, il voit deux mamans devant lui, il sait pas comment l'appeler l'autre. Mais bon, quand on va aux toilettes, il y a marqué homme, femme ou trans. On en est là aujourd'hui. Faut se réveiller un petit peu. Allez, va et plutôt ciel qu'on soit à la génération. On peut dire attention les hommes, faut pas tromper votre femme. C'est un peu trop préhistorique aujourd'hui parce que non seulement beaucoup de couples malheureusement l'acceptent dans leur façon de vivre les choses, chacun sa vie, mais de qui plus est, ça fait bien longtemps que ces immoralités sont dépassées. Et c'est
C'est
pour
ça
ça
qui est...
qu'aujourd'hui, on arrive à un crash sans précédent comme on ne l'a jamais connu dans l'histoire. Et tout est falsifié. Si vous voulez qu'on parle de choses, moi je suis prêt à parler, à dire beaucoup de détails si vous le voulez, mais il y a
On en parlera.
énormément de mensonges et les hommes devront rendre des comptes sur tous ces mensonges qu'ils ont non seulement prodigués au sein de leur nation, mais même vis-à-vis de leurs propres lois, en jouant avec la bourse, en jouant avec les banques, en fabriquant des billets de monopoly, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, sans monopoliser la parole pour moi, parce que c'est quand même un dialogue, mais tout à l'heure, tu as très très bien dit sur le domaine économique, pour sortir un billet de 100 euros, il faut avoir la valeur minimum de matières premières de 15%, sinon ton billet ne vaut rien. Ah, donc on est face à une situation aujourd'hui où beaucoup de dégâts ont lieu en fabriquant des groupes terroristes pour qu'ils aillent conquérir les pays qui possédaient encore des matières premières comme le pétrole et qui ont été organisés justement par certains pays européens et américains. Tout le monde le sait, c'est dans tous les réseaux, donc j'invente rien et tout le monde est au courant, en tout cas je l'espère, pour essayer de récupérer des matières premières et continuer de créer une économie sur le dos de viols, de meurtres qui ont été commis par tous ces groupes terroristes, envoyés et laissés agir en conséquence pour récupérer justement des matières premières et relancer l'économie de leur pays sans aucune moralité du mal et des dégâts qui ont été occasionnés au sein d'autres nations pour relever leur propre verre de vin sur la table. Ce qui est vraiment dramatique, immoral et inacceptable. Parce que si ce n'était pas le cas, cela fait déjà très longtemps que l'économie n'aurait pas eu besoin du Covid-19 pour se retrouver en bas de l'échelle, avec une sonnette d'alarme qui devrait faire réagir toute l'humanité. Mais comme on triche, comme les gens mentent constamment, comme on ne dit jamais les vérités sur ce qui se passe, alors Dieu fait agir les choses de telle façon à ce que plus personne n'en ait réellement le contrôle, même s'il y en a qui disent que le Covid-19 a été fabriqué par les hommes et que le but c'est de créer soi-disant un médicament qui pourra le guérir et donc le vendre pour des trilliards de milliards de dollars et que tout ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est que combien même un martinet nous frapperait, il y a quand même quelqu'un qui tient ce martinet. Et moi, en tant que rabbin, je préfère voir celui qui tient le martinet que celui qui me frappe, c'est-à-dire les hommes, les Illuminati, l'Ordre mondial ou toutes sortes d'organisations françaises, chinoises, américaines, ou qui tu veux, qui se cachent derrière tout ça. Car si Dieu ne veut pas, il n'y a pas. Et si Dieu veut, alors il laisse faire. Et s'il laisse faire, c'est qu'il a un message pour nous en nous disant, ça suffit avec cette façon de mentir, car vous vous êtes pris au piège dans votre propre système, et ce système est défectueux et inacceptable. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de repartir à un point zéro, car l'économie est obligée d'arriver aujourd'hui à un point zéro pour redémarrer le niveau pour le meilleur et pour le pire, car dans tout malheur, il y a toujours un germe d'espoir et de bien qui sortira.
D'ailleurs, donc c'est cette notion-là maintenant qu'on va traiter, tout est gamzolé et tout va, cette notion de Hachem ou Adok Elohim, voir Dieu de partout et encore plus dans l'obscurité. Donc ce coronavirus Est-ce qu'il n'est pas là aussi pour révéler notre personnalité, comme vous le dites si bien dans les cours de Torah, Koso, Kiso, Kaso? Expliquer qu'on voit la vraie nature d'une personne en général dans trois cas.
J'ai pas compris la fin de la question.
Que le coronavirus aussi est là aussi pour voir là où nous en sommes, les hommes,
Ah oui.
individuellement. Avec
Bien sûr.
Koso, Kiso, Kasso. Si on se met en colère parce qu'on manque d'argent. Voilà.
Oui, mais encore une fois, ça, j'en ai parlé tout à l'heure en expliquant que on ne peut pas avoir de pouvoir dans l'absolu si on n'a pas d'argent. On ne peut pas diriger les autres si on n'a pas de quoi payer. Je pense que sur le domaine moral, le coronavirus, dit donc Covid-19, a remis beaucoup les pendules à l'heure sur le statut de chaque humain sur Terre. Et que quand on n'arrive pas à fermer nos bouches, eh bien Dieu nous envoie un virus qui est inaccessible à l'œil. On ne peut pas le voir, on a du mal à savoir comment il mute, où est-ce qu'il se trouve réellement. On peut rentrer dans une atmosphère ou toucher un appareil, puis après toucher notre bouche. Et puis en fin de compte, la seule chose qu'on apprendra, c'est qu'on ferait mieux d'apprendre à fermer sa bouche. Et c'est pour ça qu'on a des masques aujourd'hui pour nous apprendre un petit peu la moralité. Je pense qu'il y a une très, très, très importante leçon d'humilité à retenir du Covid-19 pour toute l'humanité y compris. La deuxième chose, c'est que personne n'était à l'abri puisque les plus grosses sociétés aujourd'hui se retrouvent menacées de faillite face à cette situation puisque les gens sont une fois de plus isolés, on ne peut pas sortir, on est angoissé. Et vous savez à quoi ça ressemble dans la chassidoute, dans le judaïsme philosophique, on va dire chassidique, on a l'habitude de dire, est-ce que tu vois la lumière là-bas? La personne elle dit non. Il dit, bon, alors ferme les volets. Ferme les volets. Et il dit, mais est-ce que tu vois la lumière là-bas? La petite lumière, est-ce que tu la vois? Il dit toujours, non, je ne la vois pas. Alors, on retire les rideaux maintenant. Alors, il tire les rideaux. Et puis là, il dit, ah oui, je vois un truc qui brille. Des fois, il faut plonger dans l'obscurité pour être capable de voir la lumière qui, en réalité, est beaucoup plus importante que l'ampoule qui nous faisait briller jusqu'à aujourd'hui. En d'autres termes, je pense que le point le plus positif de l'histoire, c'est que Dieu a mieux à nous donner, à nous et toute l'humanité, que la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle Oro Shel Mashiach, c'est la délivrance finale. Parce qu'il est impossible que le monde continue sur son chemin sans qu'il y ait un éveil au sein même de l'humanité, comme ça s'est passé il y a 2000 ans en arrière, par exemple. J'aimerais revenir, si tu me le permets, à ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière. Sans faire de critique, je voudrais juste expliquer une situation. Il y a 2000 ans en arrière, à l'époque de Ponce Pilate, ce qui animait le plus l'humanité de cette époque, c'était les arènes où les hommes devaient se battre entre eux, se déchiqueter entre eux. D'ailleurs, on est revenu un peu cette époque
Ouais, c'est
en
très bon pas.
2002, hein, dans les arènes avec les gens qui applaudissent dès qu'il y en a un qui a cassé sa jambe ou qui a cassé la mâchoire de l'autre ou alors que pendant l'autre évanoui, lui, il lève les mains en disant je suis le champion du monde alors que l'autre est peut-être en train de perdre sa vie. Eh bien, il y avait cette barbarie qui était tellement métro boulot dodo dans la tête des gens, c'est-à-dire tellement traditionnelle, qu'est venue une personne qui a dit ben moi, je propose qu'on se laisse bouffer par les lions, dévorer, que si on te tend une joue, eh bien tu tendras l'autre joue. En d'autres termes, une révolte de l'époque. Et ça marche. Tout ce qui est nouveau marche. Ça veut dire que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Et ça démontre une personnalité au sein même de toute l'humanité, c'est-à-dire un caractère plus exactement, au sein de l'humanité, c'est que quand on en a ras-le-bol d'une situation, on est assoiffé d'un renouveau de l'histoire. Non pas sur le domaine d'une religion nouvelle qui va se créer et s'inventer, mais sur le domaine de nous, alors les Juifs, si c'est vous qui avez le Mashiach, allez qu'ils viennent, et si c'est nous qui viennent, et si c'est eux qui viennent. À la limite, allez, que quelqu'un nous amène un nouveau leader, un leader qui soit capable de nous apporter le vrai bonheur, la vraie moralité, parce que qu'on soit juif ou pas, quand on vit dans l'immoralité, quand on vit que par le biais de l'argent, au sein même et aux dépens de nos familles, qui sont les premières valeurs de chaque juif, de chaque humain dans l'absolu, eh bien, on attend un renouveau. Et comme on n'arrive pas à le voir, je pense que le créateur, maintenant je dis bien je pense, mais je ne le pense pas. Ce que je dis, j'ai toujours des références parce que je ne suis pas un penseur. Je suis un transmetteur de ce que j'étudie, un perroquet. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je ne suis pas un homme de grande valeur. Mais ce que j'étudie, je pense bien le comprendre et je m'efforce de le transmettre. Eh bien, je pense que Dieu, dans cette histoire, est en train de non seulement nous remettre les pendules à l'heure, non seulement nous faire comprendre que l'orgueil nous a menés à notre perte, qu'il n'y avait aucune sécurité, que tout lui appartient. Et qu'on a beau avoir les plus grands scientifiques, les plus grands médecins de l'histoire, il y a des moments où on lève les mains, on dit « Dieu, il n'y a que toi qui peux agir. » Et c'est ce que nous enseigne le Talmud il y a 1800 ans. Le Machiav viendra que quand l'humanité dira ouvertement « Zéou, maintenant, il n'y a que Dieu. Dieu, si tu existes, dévoile-toi parce que nous, on ne peut plus agir. » Et là, on est face à une situation, je ne veux pas être pessimiste, comme je l'ai dit, il y a déjà eu des crises économiques, il y a déjà eu des virus, on a parlé de la fièvre, la grippe espagnole. Il y a eu d'autres grippes qui ont été dramatiques. À une époque, en 1800, on portait aussi des masques. Donc, l'histoire un peu se répète, elle est cyclique d'une certaine façon, et elle a mené à quoi? Et bien, une fois que c'est passé, on a enterré nos morts, on a pleuré notre vie, et puis on a relancé l'économie, et le monde continue jusqu'à ce qu'on aille sur Mars, Vénus, Saturne, et va à l'Erteda. Je pense que beaucoup de gens voient les choses comme cela en disant « espérons être assez forts pour passer la crise ». Moi, je dis que transformons la crise en espoir de telle façon à ce que demain soit meilleur pour nous tous.
Ok, Raph. On va attaquer le dernier sujet qui est le plus important, qui est le plus houleux. Donc, vous nous avez toujours appris dans vos cours qu'on apprend beaucoup aussi de ce qui se passe dans l'actualité et dans les faits des non-juifs, notamment sur les médias qui ont une influence. Et aujourd'hui, les médias attaquent un concept qui est dans la Torah, vous allez l'expliquer, qui est basique, c'est sur le complot. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui disent des vérités, on les traite de complotistes. Moi, je vais juste, en introduction, prendre encore ce verset. C'est le Tehillim 2 que je lis tous les jours. Et je vais le lire. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets, donc de complots? Les rois de la terre se soulèvent, les princesses se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint. Donc, clairement, Dieu dit, c'est moi, dit-il, qui ai consacré mon roi sur ma montagne sainte. Donc, je pense que c'est le roi David. Donc, Dieu dit clairement qu'il y a un complot contre l'humanité. Ça, c'est Dieu qui dit. Il y a un complot depuis la nuit des temps, quand on lit la Bible.
Ce Tehillim fait allusion au Tehillim numéro 2, donc du roi David. Mmh. Ensuite, ce sera sur son fils Avshalom. D'ailleurs, les Chachamim, nos sages, disent que la guerre de la fin des temps sera moins terrible que la guerre des maisons, car à la fin des temps, les foyers seront détruits de par l'immoralité hypocrites qui géreront les maisons dans les portables, les hommes seront avec des sites, avec des femmes, les femmes parleront avec leurs anciens copains, et toute cette immoralité détruira les maisons. C'est pour cela que la fin des temps connaîtra des divorces comme jamais, jamais, dans toutes les époques on les a connus. L'hypocrisie sera au summum, et les complots sont tellement graves aujourd'hui que quand on ose dire des vérités, je dis bien quand on ose dire des vérités, amendé, on est considéré comme fanatique, on est considéré comme menteur, c'est quand même incroyable. On n'a pas le droit de dire des vérités, mais c'est quand même terrible d'expliquer que, par exemple, aujourd'hui, c'est la fin de l'Europe. Voilà, là, je suis en train de dire ça. Le Rav Twitou, un rabbin fanatique, une kippa noire, a dit c'est la fin de l'Europe. De quoi il se mêle? Mais enfin, excusez-moi, l'Europe ne vous appartient pas, ça appartient à la Terre. Et puis, à part ça, ce n'est pas le droit d'expression qui le dit. Je ne suis pas en train de maudire l'Europe, je suis en train d'expliquer que vous vous êtes mis à mort. C'est une personne en France qu'il faut aller voir pour les dégâts sociologiques qui y vivent, c'est Mitterrand. C'est lui le démarrage de tout ce balaga, de tout ce qui se passe en France, de cette économie qui s'effondre, de toute cette insécurité en France et qui se propage. Mais c'est une volonté aussi divine quelque part. Donc oui, les complots existent, mais ils sont très très souvent mal désignés. En d'autres termes, ce sont les comploteurs qui accusent les gens qui osent encore dire des vérités. Ils osent, sous peine d'amende, voire de prison, voire d'expulsion, parce que tout simplement, la meilleure façon de passer pour un innocent, c'est de passer pour la victime. Alors qu'en réalité, ce sont souvent les victimes que l'on fait passer pour les bourreaux, alors que c'est eux qui devraient porter plainte. Et malheureusement, la fin des temps va remettre une chose qui va tuer l'humanité. Je dis bien tuer l'humanité, pire qu'un revolver, pire qu'une bombe atomique. C'est la vérité elle-même. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce que vient nous apporter la fin des temps? Le dévoilement de la vraie vérité dans le monde. Et quand on se rend compte qu'on s'est trompé toute sa vie, quand on va se rendre compte que les religions Et peu importe laquelle, je ne rentre pas dans les détails, la seule vérité sortira. Il n'y aura qu'une religion à la fin des temps. Alors
Qui nous
imaginons, on va dire
servira?
comme ça, que, ben justement, que les chrétiens vont dire, eh ben justement, il a raison, là, les Juifs vont regretter, hein, c'était Jésus, notre... Ouais. L'islam va dire, mais maintenant, vous allez vraiment dans ces moments. Et puis, les bouddhistes, c'était Bouddha. Et puis les autres vont dire, c'était Shiva. Et l'autre, ils vont dire, quand la vérité va sortir dans le monde, quand les gens vont être démasqués, viendra un jour, on va l'enlever ce masque. Et que la vérité sortira sur toute cette hypocrisie, au sein même du peuple d'Israël, pas simplement chez les nations du monde. La honte sera si grande qu'on préférera mourir que de l'affronter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit une immoralité. Je vous ai noté quelque chose tout à l'heure que j'ai lu dans Maseret Avot, au nom de Rabbi Nachman, qui dit quelque chose d'incroyable. Le Yetzer Hara, les forces du mal, ont trois pieds sur terre. La force de l'argent, de la nourriture et de la débauche. Mais celle qui règne sur toutes les autres et qui provoque l'effet domino, c'est l'argent. Ce qui fait que quand tu manges trop, quand tu ne vis que pour manger et que tu ne manges pas pour vivre, tu t'emmènes vers la débauche. La clé première, c'est l'argent. Et les Chachamim nous disent que la seule façon d'arrêter tout cela, c'est de bloquer l'argent. C'est quand même incroyable. Je vous parle d'un texte qui date de 2000 ans en arrière, qui dit qu'à la fin des temps, le Créateur du monde fermera le robinet afin que les tahavot, les envies de la nourriture, de manger, je ne parle pas de manger correctement, on a besoin de manger, il ne faut pas être débile. Je parle de celui qui ne parle que pour ça. Sa vie, c'est que ça. Et la débauche qui s'ensuit ne pourront s'arrêter que quand Dieu aura fermé le robinet de l'argent. Et c'est pour cela que la Gemara dans Sanhédrin nous dit, le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus d'argent, car l'argent provoque l'effet
Merci.
domino. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui fait que Ani Chashuv Kemet, le Talmud nous dit, écoutez bien ce que je vous dis, ce n'est pas David Pitou qui parle. Moi, ce que j'ai dit personnellement, vous pouvez le mettre à la poubelle, mais ce que dit la Torah, je ne vous le permets pas. Ou alors changer de chaîne. Parce que la Torah est vraie, et je n'ai pas honte de le dire. La Torah est vraie et
Ouais,
seule la Torah est vraie. T'es d'accord, pas d'accord, pas content, pas content, fais ce que tu veux de ta vie. Raka Torah y emet ve en Torah et la Torah d'Israël. Zéro, ça plaît pas, content, pas content. Quand on écoute les imams ou les curés parler dans leur monastère, ils ont le même langage pour eux, mais on les respecte. Mais quand un rabbin qui le dit, mais pour qui il se prend celui-là? Mais c'est pas grave, ça fait partie de la fin des temps, de l'hypocrisie et justement du complot face à ceux qui sont réellement dans la vérité, Baruch HaShem, que Dieu soit béni. Mais la reine, dans cette situation, on comprend que le Créateur du monde va nous amener face à quelque chose de terrible et je voudrais vous citer des textes qui sont très durs à entendre. Mais qui disent comme ça, écoutez bien, parce que dans la mauvaise nouvelle, il y a une très bonne nouvelle, en espérant que de bonnes nouvelles pour toute l'humanité. Amen.
Amen.
Au lieu de prendre vos vies, dit Dieu, c'est marqué dans le prophète Isaïe ou Irmiaou, je ne me rappelle pas un des deux, il dit, eh bien, au lieu de prendre vos vies, je prendrai votre argent. En hébreu, le mot vie, le sang, se dit damim. L'argent en hébreu se dit aussi damim, c'est le même mot. Kesef et Damim veut dire de l'argent. Pour laisser vivre le monde, Dieu proposera un marché aux 70 anges responsables des 70 nations. Je prendrai votre argent au lieu de prendre vos vies. Peut-être que ainsi donc, vous ferez teshuva. Quand on lit la paracha de la semaine, qui est la paracha de Noé, donc j'invite toute l'humanité à lire la paracha de Noé en anglais, en chinois, en arabe, en ce que tu veux. En hébreu, en français, comme tu veux. Regardez ce que dit Dieu dans les textes. Même si je parais pour être une espèce de prêtre juif, je suis pas venu, je ne suis pas un. Comment on appelle ça, là, qui vient de convaincre les autres Non, pas un gourou, les missionnaires. Je ne suis pas un
Missionnaire.
missionnaire. Je ne vous volerai pas votre libre arbitre. Mais pourquoi il y a eu le déluge sur Terre? D'ailleurs, c'est un des rares faits bibliques reconnus par les historiens
Ah
et
oui.
par les
Ah
scientifiques.
oui. J'ai le livre de là, il est là. Il a de Zamir Cohen a fait donc en fait un livre où qui est relaté dans toutes les civilisations par le Dieu du déluge.
Alors,
Prouvé
justement,
scientifiquement.
alors
Voilà,
écoute
par
bien,
le Rav Zamir
alors écoute
Cohen.
bien, voilà, alors écoute bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers versets de la Torah, donc de la Bible, de la paracha de Noé, si vous préférez, nous disent qu'étant donné que le monde s'était débauché complètement et que les uns allaient avec les autres, écoutez bien les textes, ce n'est pas moi qui les ai écrits, on parle de la Bible, ne m'attaquez pas en procès en disant « t'as vu ce qu'il a dit ?» Abouti. Les hommes allaient avec les hommes avec les animaux, les femmes avec les animaux, les femmes avec leurs frères, les frères avec leurs beaux-frères, un truc de fou. C'est marqué comme ça. Regardez Rachid. Et la deuxième chose, le vol. Car à cette époque, eh oui, il y avait déjà des idées communistes qui se levaient et qui estimaient que pourquoi tu as une belle femme, je te tue pour la prendre. Pourquoi tu as plus d'argent que moi, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Réponse de Dieu. On y croit, on n'y croit pas. Je parle d'un... Allez, on va appeler ça un bouquin historique. Ça vous va? Il y a Guerre et paix de Tolstoï, il y a plein de romans qui ont été écrits, il y a des faits divers qui ont été comptés. Vivez-le comme vous voulez. La Torah nous dit qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a tué toute l'humanité par un déluge. Et il a mis un symbole qui est l'arc-en-ciel, promettant à l'humanité de ne plus jamais renvahir le monde par un déluge, le monde entier, mais peut-être des pays. À la fin des temps, ce sera un déluge de pauvreté qui s'abattra sur l'humanité. Puisque Dieu a promis de ne pas envoyer la pluie, nos sages disent à la fin des temps que c'est un déluge de pauvreté qui s'abattra sur le monde. Et si l'humanité ne fait pas de tshuva, et si l'homme ne se remet pas en question par rapport à l'équité, la justice dans laquelle il a promis de rester fidèle, ça risque de passer d'un déluge d'eau à un déluge de feu. C'est-à-dire une guerre tellement prévue, il y a même des films qui en ont été faits, des tremblements de terre qui mèneront l'humanité à sa perte la plus totale. Donc, il est important aujourd'hui, tant qu'on est dans cette situation où on peut arranger les choses, de mettre un terme à la haine, à l'indifférence, mais surtout à cette guerre d'hypocrisie où on ne cesse et on ne cesse de faire passer les victimes pour des bourreaux et les bourreaux pour des victimes. On sait qui sont les terroristes, on sait qui sont les voleurs, on sait qui sont les assassins. On a beau leur donner des surnoms, on a beau éviter leurs noms, mais ça suffit avec ça. Quand je vois qu'on prend ma propre personnalité, qui suis une personne de shalom, j'ai jamais fait de mal à quiconque, jamais. Jamais fait de mal à quiconque. Et qu'on me distribue dans 94 sites comme étant un fanatique, un homme dangereux, à des propos dangereux, alors que ces mêmes personnes qui les produisent sont des gens remplis de haine, de bêtises et de mensonges. Et le pire, Claude, c'est que ça marche.
Bien sûr.
C'est vraiment vous qui avez dit ça? C'est vraiment vous?
J'ai envie de vous dire. Bilam, Bilam, c'est la force des médias.
C'est fou combien le monde va mal. Les Émirats arabes ouvrent enfin les yeux et veulent faire un traité, on va dire, de communication avec Israël, reconnaître la légitimité d'Israël. Mais c'est incroyable. Depuis 1994, les Américains avaient déjà prévu de prévoir Jérusalem comme capitale du pays d'Israël. Il aura fallu attendre 2018 pour enfin 2019 concrétiser un pacte qui avait été conclu. Mais combien on a eu peur? Combien on a peur d'être juif? Combien on a peur de vivre sur notre terre? Notre terre, ce n'est pas la personne. On n'a jamais en retiré un drapeau palestinien en 1948. C'était le mandat anglais. Quand vous regardez le Larousse 1944-1936 exactement, vous ouvrez là-bas Israël-Palestine, si vous voulez, puisque c'était long condamné, vous y trouverez un drapeau israélien. Le Larousse 1936. Oh, réveillez-vous les mecs. On n'a rien volé à personne. Mais c'est un mensonge médiatique extraordinaire qui fait tellement plaisir.
Mais c'est pourquoi?
Pour passer pour le bourreau, c'est pas le gourou, le bourreau. Sachez, chers amis, que vous avez été bananés par les médias, où on vous a menti sur le domaine du problème israélo-palestinien. On n'a jamais fait quoi que ce soit de mal et il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Le pire de l'histoire, c'est que les historiens arabes aujourd'hui, les Émirats arabes, J'ai les vidéos, si je peux vous les envoyer. Ils vous diront exactement la même chose que moi, que c'est la plus grosse arme historique de la fin des temps. Mais quand la vérité sortira, Bezrat Hashem, alors tout le monde pourra, je l'espère en tout cas, la teshuva la plus importante, celle de la sincérité
et celle de la foi. Amen. Amen. Pour finir, Rav, donc, quel conseil, bon, moi je le sais par rapport à vos cours, quel conseil Claude, vous pouvez donner? Oui.
Alors justement, quelqu'un pose la question en disant, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est en confinement et le monde n'a pas changé. J'ai parlé de ça avec mon épouse, que Dieu bénisse son mari.
Amen.
Dommage que Dieu la bénisse parce que vraiment, elle est à mes côtés dans tout ce que je fais et je suis fier d'elle parce qu'elle est toujours avec moi, mais elle fait toutes les choses. J'aimerais vous dire comme ça quelque chose de très important. Vous savez, comme un père qui veut éduquer son fils, un père ne se lève pas à frapper son fils directement quand il fait des bêtises. Il le prévient. Nous sommes, chers amis, encore dans une phase de l'histoire où Dieu nous a mis dans une pseudo-prison. On est dans un isolement. On est dans, je peux vous dire, dans le domaine psychologique, on est dans un brouillard, on ne peut plus, épais, avec, je vous cite, si je peux me permettre, Covid-19, invité surprise de l'économie mondiale de la fin des temps, qui mènera le monde à vivre dans l'incertitude, l'angoisse, la peur, la panique, voire les suicides, comme on l'a vu dans certains pays comme l'Italie, l'Espagne, où l'économie finira par arriver à l'arrêt total. Des banques mises en danger qui mettront donc tout l'argent des privés en danger. Un contrôle total de l'argent sur le domaine international, où on ne sera plus même nous propriétaires de notre propre argent. Crise du Covid-19 mondialisée sur l'économie mondiale remise en cause qui amènera le monde au point zéro. Vous vous rappelez qu'en an 2000, on pensait que les ordinateurs allaient exploser et qu'on ne saurait plus quoi faire puisqu'on aurait perdu toutes les années précédentes. Non, c'est le Covid-19 qui risque de le faire puisque selon tous les économistes, on parle ici d'un point mort comme si on devra inventer une nouvelle monnaie pour relancer une économie qui ramènera donc tout le monde entier au point zéro.
Elle est faite.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais juste m'expliquer sur ça et je vous laisse la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha de Metzora, d'ailleurs dans la paracha qui la précède, la paracha de Tazria, on nous parle de la lèpre. On nous parle d'un virus qui pénètre l'homme et qui apparaît sur sa peau jusqu'à mettre fin à sa vie s'il ne s'arrange pas. Aux sages de nous expliquer que cette lèpre ne venait pas sur l'homme directement. Elle venait d'abord sur sa maison. Et ensuite, elle venait sur les habits de l'homme. Et ensuite, elle s'abattait sur l'homme. Bizarrement, la Torah nous donne le remède. Qu'est-ce qu'il devait faire? On n'allait pas me croire, c'est dans la Torah. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est Dieu. Alors, si vous n'êtes pas content, vous allez au Kotel, gilet jaune, manifestation, pas content. Donc, dans la Bible, pour ceux qui veulent bien l'étudier, la Torah nous dit qu'ils allaient voir le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et il lui disait, qu'est-ce qu'on fait? Il lui disait, tu es impur. Il dit, à cause de quoi? Il lui dit, parce que tu parles mal. Tu parles dans le mensonge, tu fais du lachonara, tu fais de la médisance, tu parles mal des autres, tu parles avec vulgarité, patati patata. La réparation dans la Torah consistait de mettre un masque sur le visage et d'enfermer cette personne, tenez-vous bien, combien de jours?
40.
7 jours.
Ah, comme dans... Ok.
7 jours. Écoute la suite. Si cette personne ne s'était pas améliorée, elle n'avait pas fait échouva sur son hypocrisie, sur la méchanceté de ses paroles, et retournait voir le Kohen, donc le grand prêtre, qui lui disait, retourne encore 7 jours. 7 et 7
7 14. Et 7, 14 valeurs numériques, machia, délivrance.
Plutôt David.
Oui, ce David.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans certains pays européens, le confinement dure 7 jours quand tu viens d'un pays étranger. En Israël, il dure 14 jours. Il y a des similitudes ici qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des similitudes ici entre la Torah et ce que l'on est en train de vivre avec le masque confiné dans sa propre maison. Mais la question qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passerait ensuite si la personne ne s'améliorait toujours pas? Elle mourrait. C'est-à-dire que les gens ne changent pas. Et j'ai dit à ma femme ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, si après le Covid-19, si Dieu veut qu'on trouve l'antidote et amène qu'on le trouve, Parce que moi, il n'y a rien qui me réjouit de voir des gens souffrir. Quand je vois des non-juifs s'aimer, se respecter, des juifs qui se serrent la main, et c'est mon plus grand bonheur. Je suis un homme de paix, pas un homme de guerre, même si je sais la faire si on cherche. Mais ce n'est pas mon but. Moi, mon but à moi, c'est de rendre les gens heureux. Quand je reçois mes rendez-vous, je ne prends pas d'argent. Mon seul salaire, c'est de savoir que j'ai rendu service, qu'ils soient juifs ou pas. Et tu me connais assez bien pour cela depuis toutes ces années. Ça va plonger où le monde? Dans l'obscurité encore la plus noire, la plus totale, la plus inacceptable, c'est-à-dire au plus profond de l'irréparable, ou changer l'humanité pour un monde meilleur, où le monde aura enfin compris qu'il n'est pas le maître du monde et qu'il y a un maître au-dessus de nous. Pour moi, l'histoire du Covid-19, c'est le dernier quitte ou double de toute l'humanité. Voilà exactement ce que je pense personnellement, mais je suis quand même référencé par tous mes livres. 2021 sera une année cruciale et certainement tournant pour toute l'humanité. Espérons qu'avant d'en arriver à cela, que le pain qui manquera dans les familles des terres du monde entier, de toutes les nations du monde, ne mène pas le monde à une guerre sans retour. Alors, certains prophètes disent que Jérusalem sera remis en cause, que Dieu réunira toutes les nations du monde à monter sur Jérusalem et qu'il réglera ses comptes avec les nations et les exterminera. Ce n'est pas moi qui le dis, allez vous faire cuire un œuf, qu'est-ce que je vous dis, avec tout le respect que je vous dois. La Bible, les prophètes d'Israël, dans la Bible en français, achetez-le, disent que Dieu réglera les comptes avec les nations du monde pour le mal qu'ils ont fait subir au peuple d'Israël. Je vais effacer ces textes pour vous faire plaisir, parce que ça vous dérange. À moins que vous n'ayez rien à vous reprocher, dans ce cas-là, vous le vivrez très bien. La reine, Ezra Tefem, qu'on se réveille un petit peu, et je pense que ce rendez-vous avec toi aujourd'hui qui représente les nations, enfin ceux qui te suivent et moi ceux qui me suivent, c'est de comprendre un message très important. Il est impératif aujourd'hui que l'on se réveille, et peu importe que tu sois juif, musulman, chrétien, bouddhiste, athée ou ce que tu veux, il est temps pour nous de nous comporter comme des humains et de cesser cette conduite animale qui risque de nous mener à la shrita, c'est-à-dire à la perte de nos vies.
Voilà, Rav. Alors, pour finir, voilà, très brièvement, Rav, il y a beaucoup de gens qui ont compris que la vérité était uniquement dans la Torah, je vous le dis, vous le savez, je vous relate à chaque fois. Bon, là, je sais que vous êtes très occupé, je ne vous en vois plus, mais c'est des gens qui étaient loin de ça, des gens très connus aussi maintenant que, bon, voilà, certains se sont révélés au grand public. Rav, pour un non-juif, moi, je vais dire ce que je fais, vous allez me corriger, mais qu'est-ce que vous conseillez à un non-juif aujourd'hui? Quelle prière du lever dès qu'il se lève? Quelle attitude avoir avec, bien sûr, l'étude de Torah? Qu'est-ce qu'un non-juif peut faire pour mettre de la lumière dans ce monde au sein même de son foyer, de son couple, en ayant un bon shalom avec sa femme? Mais qu'est-ce qu'il peut faire comme prière? Qu'est-ce que vous conseillez? Après, moi, je vous dis ce que je fais d'abord. Tous les matins ou pas?
Oui.
Voilà, vous me dites si...
Je connais un peu ton emploi du temps. On en a souvent parlé déjà à l'époque. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît, grâce à Dieu. Tu es quelqu'un de très investi. Tu fais tes bénédictions avant de manger. D'ailleurs, les bénédictions en hébreu. Ce qui t'est permis, puisque tu respectes les sept lois noachides. Mais pour répondre brièvement à ta question, d'abord et avant tout, la première chose que j'aimerais faire passer comme message, moi qui n'étais pas du tout religieux pendant une longue partie de ma jeunesse et qui était persuadé que le monde avait été créé par le Big Bang et que l'homme venait du singe, c'est que, après avoir étudié d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, la théologie chrétienne, j'ai étudié l'islam, y compris le bouddhisme, de façon, on peut dire, autodidacte, certes, même si j'étais attaché à certaines personnes pour poser des questions. Et après, j'ai fait mes études de rabbinat en yeshiva. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, moi qui ai traversé toutes ces étapes de la vie, c'est de vous convaincre d'une chose, c'est que Dieu existe. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais sachez vraiment que Dieu existe. Et en quoi ça vous engage d'y croire? Eh bien, ça vous engage au fait que si Dieu existe, ce n'est pas le Dieu d'Aristote, de Platon ou de Socrate dont je parle, quoiqu'ils avaient pas mal de bonnes moralités au niveau de leurs enseignements sur certains détails que j'ai aussi étudiés à l'occasion, mais Confucius, je mets aussi dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que Le fait de savoir qu'il y a un Dieu, c'est que ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui a laissé la terre pour les hommes et lui, il a pris le ciel, comme le prétendait César. Mais bien au contraire, que Dieu est investi dans vos vies privées, qu'il surveille vos pensées, vos paroles et vos actions, sachez-le. Ce n'est pas un complot divin. Et que si vous avez créé une bouche, ce n'est pas pour l'utiliser pour l'hypocrisie et le mensonge, mais pour lui adresser des paroles. C'est pour cela que l'un des plus grands remèdes que je puisse donner à mes amis non-juifs, c'est de leur dire parler avec Dieu tous les jours.
Bon, des
Tous les jours. Et rattachez-vous au minimum de la moralité, des 7 lois noachides, qui ne sont que des lois qui différencient l'homme de l'animal. Surtout en ce qui
super.
concerne l'impureté de l'esprit, d'être beaucoup plus moral, sans pour autant rappeler vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, comme à l'époque de Camus, par exemple, en France, à Marseille, à la Canebière. Il y avait de la moralité. On ne faisait pas trop de mal à sa femme. Quand on regardait une femme, on dit, bon, il faut que tu arrêtes. C'est pas joli ce que tu fais. Respecte les personnes plus âgées que toi. Je ne parle pas de préhistoire. Je parle simplement de vos parents ou arrière-grands-parents. Donc, il serait bon, Béhémet, pour les non-juifs aujourd'hui de lire des Tehillim, de faire des psaumes, ce serait génial, d'apprendre à se respecter, à bien parler, cesser cette vulgarité qui ne cesse de détruire et faire du mal. Oui, je pense qu'on restera dans le cadre gentil, mais respectable. Allez, vaille, que déjà on quitte cette notion que l'on vit aujourd'hui dans les médias et dans la vulgarité extrême de ces défilés insupportables et inadmissibles, mais pourtant tellement récents, comme si qu'ils avaient existé depuis des décennies, d'hommes déguisés en femmes, de femmes qui s'embrassent en public devant des enfants, où on justifie des allocations familiales avec adoption d'enfants dans l'immoralité la plus totale. C'est-à-dire un pédophile se fera arrêter, fera de la prison. Mais quand tu acceptes un enfant qui grandit dans une maison où il y a deux hommes qui sont dits mariés ensemble, quelle vérification tu vas faire avec leur enfant? Où est-ce qu'on va? Où est-ce que va l'humanité? Où est-ce que va l'humanité quand quelqu'un qui est assassiné, on lui trouve des raisons et des maladies, mais la famille elle-même qui pleure son mort, on lui fait juste une cérémonie et on dit goodbye. Une juive fénestrée qui accueille un arabe, un arabe, hein, c'est pas un chinois, c'est un arabe. Un arabe, ça s'appelle un arabe. Hein, ok? Elle lui donne à manger, elle le reçoit, elle lui ouvre la porte, il la prend, il la jette de l'autre côté. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Jusqu'où va aller l'injustice? Alors mon conseil, si vous le voulez, réinstaurer l'injustice et arrêtez de vous faire bananer par les médias. Arrêtez de croire un système dans lequel on vous manipule depuis des décennies. Et surtout en ce qui concerne les Juifs. Mon plus grand conseil, si vous voulez être béni, bénissez les Juifs et ne faites jamais du mal à un Juif. Parce que la clé finale de toute l'histoire du peuple d'Israël, qu'on le veuille ou pas, ce sera les Juifs. Vous savez qu'à la fin des temps, qui vivra verra. À ce qui paraît. À ce qui paraît. C'est rien. Vous allez être très déçus, les antisémites. Ce que je vais dire va vous déplaire. Non! J'en rigole. À ce qui paraît, hein, à la fin des temps, le peuple d'Israël deviendra, même les Chet Kohanim, ils deviendront tous des Kohen. Alors qui deviendra
Et
Israël?
c'est
Eh bien,
vous.
les non-juifs. Les
C'est ça.
non-juifs prendront la place du peuple d'Israël et le peuple d'Israël prendra la place des prêtres pour les nouveaux, entre guillemets, juifs de l'histoire, ce qu'a voulu faire croire justement à l'époque, il y a 2 millions de Jésus. Il était basé sur des faits qui arriveront à la fin des temps, mais il les a pris pour lui. Mais bon, la vérité sortira et tout le monde un jour dansera d'allégresse et de joie main dans la main. Ça, c'était mon message. Parlez avec Dieu. Devenez meilleur. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtons de se faire du mal. Et pour les juifs, j'aimerais vous demander 3 choses, hein, puisque tu me lances sur ce sujet-là. Première priorité, la paix. Rejoignez votre terre dans les meilleures possibilités et conditions du monde. Troisième, faites attention à Shabbat. La carte d'identité d'un juif, c'est Shmirat Shabbat. Faites attention à la débauche. Faites attention aux Zera Levatala. Faites attention de ne pas parler de mal de quiconque. Faites attention d'accomplir la mitzvah la plus importante. Même j'ai dit 3 choses, je suis tunisien, ça fait 5. Il se passe beaucoup de problèmes aujourd'hui en Israël. Comme on dit, on lâche le linge sale en famille. Mais Je demande vraiment à tous les Juifs d'Eretz Israël, en tout cas tous ceux qui nous écoutent, Ben Atzarfetim la Israélim, la Simketz, la Sina Azot, la Aflaya Azot, de mettre un terme à cette ségrégation, de dénigrer l'un et l'autre, de croire que le monde religieux ne sert à rien, de croire que c'est toujours pour les Juifs que tout arrive, que c'est à cause des Juifs qu'il y a le virus aujourd'hui. Donc, je rappelle que le virus est sorti de Wuhan en Chine, fabrication franco-chinoise, pour ceux qui veulent un peu plus de renseignements sur comment ça s'est passé, et ainsi de suite. On arrête constamment de voir les défauts chez les uns et les autres et qu'on s'occupe de nous-mêmes. Ouais. Et j'espère que Bezrat Hashem, je le souhaite, j'espère que la France et l'Europe s'en sortiront, même s'ils ne cessent à mes yeux personnels de commettre beaucoup d'erreurs sur le domaine démographique, sur le domaine politique et sur bien d'autres domaines. Mais si Dieu veut, la vérité sortira et il y aura un roi pour tout le monde à la fin des temps. Chose que tout le monde attend. C'est d'ailleurs le seul point sur lequel tout le monde s'accorde en disant mais un seul vrai leader, non pas qui s'impose, mais que tout le monde accepte et honore.
Amen. Merci beaucoup, Rav. Et juste cette notion, je viens d'avoir une question. J'ai des amis à moi juifs que je leur ai expliqué que il y a beaucoup d'antisémites. Il y en a qui sont antisémites parce qu'ils veulent l'être, et il y en a qui le sont aussi parce qu'ils ont eu, à cause des médias, des mauvaises relations avec des juifs. Ils ont été lobotisés par des médias. Donc c'était aussi pour dire à mes amis juifs de leur dire que vous avez cette mission d'être hors la goyim, lumière pour les non-juifs, de nous amener aussi à la vérité par vos comportements. Et aussi, comme vous l'avez dit dans plusieurs cours, c'est cette crainte de Dieu, Réchit Rorma Yirat Hashem, voilà, de vraiment craindre de Dieu et de ne pas se croire que parce qu'on est juif, tout est permis, que le comportement d'un juif vis-à-vis d'un non-juif, même si celui-ci n'est pas croyant, il compte aussi dans le ciel, quoi, parce qu'il y a certaines personnes, sans affaire d'accusation, qui prennent certains mots de rabbanim qu'il y a une humilité, or que c'est bien le contraire. Voilà.
Absolument, et c'est pour ça que j'envisage et je continuerai sur mon chemin avec l'aide d'Hachem, car je crois en ce que je fais. Et ça porte ses résultats. Je vais te dire quelque chose, Claude, et je m'adresse en même temps à tout le monde, et je n'ai pas honte de le dire, puisque les messages, mon épouse les écoute, elle peut en témoigner. J'ai pas mal de musulmans, de chrétiens, de même de gens sectaires qui m'ont envoyé des messages après avoir écouté plusieurs de mes cours, et qui m'ont dit la phrase suivante, et je recite un musulman antisémite qui a rêvé toute sa vie de casser des os de juifs, ces termes, hein, je reprends ce qu'il m'a dit. Pour moi, la vie était faite pour casser des os de juifs, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, comme ça fait un an que j'écoute vos cours, non seulement je suis devenu prosélyte, mais je demande pardon aux juifs car on ne vous connaissait pas. Je me suis laissé endoctriner. Il y en a qui disent, ouais, les juifs, ils prennent l'argent. Rabbi Nachman, il dit, les juifs prennent l'argent, mais l'argent aime aussi les juifs. Les juifs, on porte une bénédiction. Sachez que ce n'est pas les juifs qui font de l'argent. C'est que le créateur du monde nous bénit sur notre chemin pour que l'économie passe effectivement par les juifs parce qu'on est porteur de bénédiction. Or, la goïm, ce n'est pas qu'un enseignement philosophique. Il y a aussi des juifs qui ne le savent pas. Il y a aussi des juifs qui vivent dans une très grande précarité. Il y a énormément de pauvres aussi au sein du peuple juif. Mais de façon générale, moi, j'inviterai grandement les nations du monde, chaque non-juif, avant de jeter une pierre sur un juif ou une insulte ou quoi que ce soit, d'apprendre à nous connaître et d'arrêter d'être manipulé, motivé, à nous haïr, à nous détester et à vivre sur des préjugés. Alors que, Béhémet, quand on apprend à nous connaître, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens avec des non-juifs qui ont fini en me disant, Rav Tutu, vous êtes quelqu'un de merveilleux, j'ai envie de fréquenter que des juifs et des choses comme ça. Maintenant, encore une fois, nous, on n'a pas le droit de s'assimiler, on ne peut pas se marier avec des non-juifs, c'est sûr. C'est ça. Mais on n'a aucune haine vis-à-vis de personne. Et on peut dire que même après l'Holocauste, Israël a été le premier pays à tendre la main à l'Allemagne pour qu'un traité de paix se fasse entre nous et que des relations diplomatiques interviennent. Le peuple d'Israël oublie très souvent ses souffrances et de qui plus est, c'est un peuple qui ne recherche que la paix. Il faut le savoir, on l'a cherché, on l'a pendant des décennies avec nos voisins. On a reçu des missiles sans réagir. Je rappelle la guerre du Golfe, je rappelle plein d'autres événements. On a reçu pendant, pour que vous sachiez une petite idée comme ça, que les gens ne savent peut-être pas, plus de 8981 missiles sur 8 ans sur la ville de Gaza. De Gaza, alors qu'on n'a pas réagi parce que les Américains nous interdisaient de réagir. C'était un mode de époque. On avait les bras croisés, on ne pouvait pas agir parce que Dieu nous a donné une leçon de morale. On croyait que c'était l'armée qui nous sauverait. Dieu nous a dit, voyez, je vous ai donné des armes, je vous ai donné une armée, que Dieu bénisse notre armée, mais vous vous la fermerez. Voilà Amen. Exactement ce qu'on a vécu. Donc, on vit des choses aujourd'hui qui doivent éveiller que pas simplement le peuple juif ne peut pas vivre sans Dieu, mais que les nations du monde ont très, très rapidement intérêt à réaliser que Dieu est partout et que ce monde lui appartient et qu'il est le patron unique. Et si on n'y arrive pas par la pensée, D'accord. on réalisera peut-être quand on sera arrivé au plus bas de l'échelle. Chose que je ne souhaite pas, ni pour nous, ni pour vous, ni pour personne.
Merci Rav. Et à très vite, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci, encore merci à cette veille de Hanouka de nous mettre encore de la lumière parce que on en a besoin, ben, vous savez.
Tu voulais dire que la prochaine fête, ce sera Hanouka, le 25.
Et oui.
Parce que ce soir, il y a une grande lumière. Ce soir, c'est la Hiloula. C'est le jour anniversaire du départ d'un des plus grands maîtres, des plus grandes lumières du 21e siècle. C'est le Rav Ovadia Yosef. Ce soir, nous souhaitons faire des prières, nous demandons des bougies pour un maître qui a été respecté, puisqu'il y avait plus d'un million 200 000 personnes le jour de son enterrement. Le maître de la loi juive qui comprend d'ailleurs beaucoup de tendances différentes, Maran Arav Ovadia Yosef, Sruto Yegan Alenu et Bezrat Hashem, je le demande aujourd'hui, c'est Saïloula, qu'il prie dans le ciel devant le Créateur du monde avec tous les autres tzadikim pour que nous ayons de bonnes nouvelles, pas simplement que pour le peuple juif, pour toutes les nations du monde, et qu'on voit que des visages illuminés par l'amour du prochain et la sérénité, l'équilibre, sans pathologie, sans critique, sans guerre, si ce n'est que d'être heureux. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand ennemi de nos vies, c'est nous-mêmes. On s'empêche d'être heureux, on s'empêche d'aimer, on s'empêche de croire au bonheur. Alors qu'il est juste tapis à notre porte, il suffit simplement de l'ouvrir et de lui sourire.
Comme tout.